Des sous et des hommes. Et c'est donc pour la centième, toujours Pascal Fourier. Et notre invité,
Jacques Nikonoff.
Toujours président d'Attac. Alors la dernière fois, vous nous aviez laissé dans un suspense absolument épouvantable, puisque vous évoquiez la possibilité pour un pays de bonne volonté d'apporter une alternative au libre-échange, à la mondialisation. Oui, mais comment ?
Mais la mondialisation, il faut le rappeler, est une stratégie politique qui se traduit par des décisions. Exemple, ce sont bien les gouvernements qui ont décidé de créer la Banque Centrale Européenne et de la rendre indépendante. Ce sont bien les parlements qui ont voté des lois organisant la précarité du travail, assouplissant les conditions de recours au travail intérimaire, qui ont créé le CDD, alors qu'avant il n'y avait que le CDI. Bref, où les décisions qui ont été prises par les gouvernements et les lois votées par les parlements pour libéraliser les mouvements de capitaux, etc., etc. Donc la mondialisation est le résultat de multiples choix opérés par de multiples acteurs. Et donc il s'agit, si l'on croit qu'un autre monde est possible et si l'on veut trouver des alternatives aux politiques néolibérales, identifier les lieux de décision, c'est-à-dire où se prennent les décisions qui mondialisent la société, dans le sens néolibéral, et donc où peser et comment peser. Alors, la situation est assez simple. Vous avez d'abord les instances multilatérales, dans lesquelles se prennent de très nombreuses décisions. C'est l'Organisation mondiale du commerce, c'est la Banque mondiale, c'est le Fonds monétaire international, c'est l'OCDE, c'est l'Union européenne, la Commission européenne, le Conseil européen, et encore d'autres instances multilatérales de moindre envergure. Donc, premier objectif, eh bien, il faut qu'une mobilisation internationale, comme nous y contribuons, à Attac, se poursuive pour peser sur ces instances multilatérales. J'ai oublié le G8, qui n'est pas à proprement parler une instance multilatérale, mais qui prend des décisions. Deuxièmement, il y a les États. Les États prennent très grand nombre de décisions, et je dirais même des décisions essentielles. Par exemple, la politique sociale en Europe dépend toujours des États. Ça n'est pas une prérogative européenne. Donc un État qui aurait envie de mener une politique sociale peut parfaitement le faire. Il n'a pas besoin de se camoufler derrière les contraintes européennes. Il y a ensuite les décisions prises par les structures infranationales, c'est-à-dire les collectivités locales. En France, ce sont les régions, ce sont les départements, ce sont les communes, ce sont les syndicats intercommunaux, qui prennent aussi toute une série de décisions en matière d'investissement public, etc., etc. Il y a ensuite les entreprises prennent des décisions, et il y a enfin les citoyens qui, eux aussi, prennent des décisions. Dans les choix de consommation, d'épargne, d'engagement citoyen, les citoyens peuvent encourager la mondialisation libérale ou la décourager. Alors, il s'agit d'avoir une approche systémique, c'est-à-dire de considérer que les alternatives doivent articuler tous ces différents échelons, tous ces niveaux, et qu'il faut parvenir à faire bouger tout cela avec le maximum de cohérence. Alors prenons quelques exemples. Partons des citoyens d'abord. Les citoyens ont des marges de manœuvre considérables. Les citoyens peuvent boycotter des entreprises, peuvent boycotter des produits, et donc par leur choix de consommation favoriser telle ou telle production, telle ou telle entreprise, et ça paye. Il y a également la possibilité de jouer sur l'épargne. On peut déposer ses comptes bancaires dans d'autres banques que celles qui pratiquent les marchés financiers. On peut confier son épargne à d'autres motifs, pour d'autres objets que le marché actions. Bref, il y a là une marge de manœuvre qui est importante du côté des citoyens. Prenons les collectivités locales. Les collectivités locales, elles aussi, peuvent contribuer à des politiques alternatives. Je voudrais prendre quelques exemples parce que bien souvent, on a l'impression que les collectivités locales sont enfermées dans leurs prérogatives au sens strict, alors qu'en réalité, les collectivités locales ont beaucoup plus de marge de manœuvre qu'on l'imagine. Et je voudrais prendre l'exemple des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, c'est-à-dire ces pays qui ont une fiscalité dérogatoire qui attire des capitaux qui ne subissent pas l'impôt, c'est-à-dire qui privent les États de recettes qui pourraient être utilisées à des politiques sociales et de coopération internationale, eh bien les collectivités locales peuvent interdire de marché public les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux et appeler à boycotter les banques dont on a la liste, qui utilisent des paradis fiscaux. Si un maire, un président de conseil général, un président de conseil régional faisait un appel en disant « Nous, conseil régional, général ou mairie, nous refusons de travailler avec un tel parce que ils font des paradis fiscaux, ils travaillent avec les paradis fiscaux et nous vous appelons, vous, citoyens, à faire de même », eh bien, croyez-moi que ça aurait du poids. Simplement, l'idée ne vient pas encore qu'ils peuvent faire cela, je prends cet exemple, mais il y en a dans beaucoup d'autres domaines. Et puis, prenons les États. Ben, les États ont des marges de manœuvre absolument considérables. Et c'est, je pense, la question politique principale. Parce que, oui ou non, les citoyens ont-ils encore la possibilité de choisir la politique économique, sociale, leurs institutions en fonction de ce qu'ils veulent, ou sont-ils désormais obligés d'appliquer, de se conformer aux standards partout le même des politiques néolibérales? Parce que si on ne peut faire que des politiques néolibérales, ça ne sert plus à rien de voter. Donc restons chez nous, allons à la pêche et mettons des experts, ça ne sert à rien d'élire des députés puisque ils vont voter toujours des lois qui mettent en place le néolibéralisme. Alors, que peut-on faire? Eh bien, on peut engager des ruptures à l'échelle nationale dans chaque pays. Mais il y a une condition à cela, c'est que ces ruptures doivent s'inspirer d'une vision mondiale. C'est-à-dire qu'il faut en même temps prendre l'initiative à l'échelle nationale et prendre l'initiative à l'échelle internationale pour bien montrer que ce qui se fait à l'échelle nationale s'inscrit dans une perspective mondiale d'alternative au néolibéralisme. C'est la condition du succès. Parce qu'il y a, une crainte qui s'est développée, qui est alimentée d'ailleurs par ceux qui ne veulent pas bouger ou qui se contentent du néolibéralisme, c'est la crainte de l'isolement. On nous explique que si on vote non, par exemple, lors du référendum, la France sera isolée, si on fait telle ou telle politique, on sera isolé, etc. La peur. Ben, je crois qu'il faut vraiment ne pas céder à cette peur, parce que l'argument est absurde. Il est absurde dans le principe déjà, parce que s'isoler, ça signifierait qu'aucune innovation n'est plus possible. On ne pourrait plus jamais rien démarrer de neuf, au motif que, par définition, celui qui lance quelque chose de neuf est seul au début, par définition, sinon ça ne serait pas neuf. Et donc, plus rien de neuf ne pourrait arriver, puisque celui qui porte du neuf serait isolé. Dans la vie, il y a deux catégories, il y a les locomotives et les wagons. Il vaut mieux être dans la locomotive que dans les wagons. Et donc, si on veut faire du neuf, il y a un moment où on peut être isolé. Mais isolé par rapport à qui et par rapport à quoi? Isolé par rapport aux politiques néolibérales, ça n'est pas gênant, c'est même une qualité, c'est pas un inconvénient. Ça n'est pas cette crainte qu'il faut avoir, mais au contraire, créer les conditions pour montrer qu'un certain nombre de forces, des associations, des partis, des syndicats soutiennent, vont soutenir à l'échelle internationale un gouvernement qui va s'engager dans des ruptures vis-à-vis des politiques néolibérales. Et ces ruptures, qu'est-ce qu'elles doivent viser? D'abord, un gouvernement qui voudrait aller dans cette direction d'abord, agirait dans les instances internationales, au lieu de jouer les carpettes dans ces instances, aurait une action volontaire, c'est-à-dire qui agirait dans le sens de l'intérêt général. Et beaucoup de pays suivraient, et je pense qu'il ne faut pas non plus négliger le fait qu'un certain nombre de pays pauvres qui subissent un chantage de la part des États-Unis par la dette pourraient aussi quand même décrocher s'ils sentaient qu'il y a dans le monde une volonté politique qui se manifeste. Donc la première chose, c'est d'avoir une attitude beaucoup plus offensive, beaucoup plus ferme dans les instances internationales de la part des représentants du gouvernement français et de d'autres pays qui voudraient s'engager dans cette voie. D'ailleurs, il y a un très bon exemple, c'est l'exemple de la guerre en Irak. Quand Schröder et Chirac ont dit non aux États-Unis, ils étaient isolés. Ils étaient tous les deux, ils étaient isolés. Et je ne suis pas sûr que M. Jospin, d'ailleurs, aurait fait le même choix. Je pense même le contraire. Précisément parce que dans cette mouvance politique, intellectuelle, il y a cette crainte absolument irraisonnée de l'isolement. Mais on a vu que, grâce à cette position de Chirac et de Schröder, les Russes ont bougé. Et les Russes ne bougent et ne bougeront que si le couple franco-allemand bouge. Et ensuite, les Chinois ont bougé, et les Brésiliens, et l'Afrique du Sud. Ce qui fait qu'au départ, certes, il y avait une position politique courageuse de Schröder et de Chirac, qui a contribué à créer, à l'échelle planétaire, une coalition qui est loin d'être négligeable. Donc, cette expérience montre que l'on peut certainement, dans d'autres domaines, celle des politiques néolibérales, pas seulement sur la guerre, avoir des positions qui portent l'intérêt général à l'échelle planétaire. Donc, c'est ça, je pense, qu'il faut voir. Les gouvernements qui veulent rompre avec le néolibéralisme doivent tout de suite avoir cette vision internationale, cette vision planétaire. C'est la condition pour avoir des soutiens à l'étranger, parce qu'évidemment, nos adversaires ne vont pas rester les deux pieds dans le même sabot. Alors, après, quel est le sens de la transformation? Ben, le sens de la transformation, c'est d'abord la souveraineté. On parle de souveraineté alimentaire. La Confédération paysanne et nous avec sommes pour la souveraineté alimentaire. Chaque pays doit pouvoir décider ce qu'il importe, ce qu'il exporte, ce qu'il mange. La souveraineté sociale, c'est la même chose. Et donc, il faut parvenir à cet objectif dans le cadre de la coopération internationale, évidemment, et non pas d'un point de vue strictement nationaliste, ce qui est là la garantie assurée de l'échec.
Des sous et des hommes, toujours en compagnie de Jacques Nikonoff, qui ne lasse de m'étonner. Vous disiez il y a quelques instants que le sens de l'alternative qui devait être proposée devait amener à la souveraineté alimentaire et à la souveraineté sociale. Mais on pourrait vous dire, mais les marchés vont réagir immédiatement. Si par exemple la France décidait de prendre des décisions propres à assurer la souveraineté alimentaire qu'on a peut-être encore, et surtout la souveraineté sociale, immédiatement les marchés vont retirer leurs billes et on va se retrouver tout nu.
Enfin, oui et non. Hein, oui et non. Ça, c'est un épouvantail qu'on brandit, évidemment, pour empêcher la mise en œuvre de la souveraineté alimentaire ou sociale. Souveraineté sociale, je précise que ça signifie la liberté pour les habitants d'un pays de choisir leur modèle social, ce qui est la moindre des choses. Il ne faut pas craindre cela. Les craintes sont excessives et elles sont parfaitement contrôlables. Je crois que ce qu'il faut, c'est de développer une articulation entre les visions mondiales et les visions nationales. À l'échelle internationale, il y a besoin d'un nouvel ordre international. Il y a besoin d'un plan Marshall, je prends cette expression parce qu'elle est compréhensible. Il faut un plan Marshall pour l'aide aux pays pauvres, c'est-à-dire l'augmentation de l'aide publique au développement, l'annulation de la dette, des taxes globales, l'accès à l'eau pour tous et à l'assainissement, aux médicaments, bref. Permettre à tout le monde sur la planète de voir ses besoins essentiels satisfaits, lutte contre la pauvreté, etc., etc. Et ça ne peut passer que par une remise en cause des marchés financiers internationaux. Il faut affaiblir les marchés financiers, il faut se déconnecter des marchés financiers. Alors, ça, évidemment, l'idéal, c'est une action internationale concertée, à propos de laquelle il ne faut avoir aucune illusion. Les États-Unis n'accepteront jamais. Et donc, si on attend BA qu'à l'échelle internationale des choses changent, eh bien, on attendra longtemps. C'est beaucoup plus à la fois simple et compliqué que cela. Il faut des initiatives individuelles, il faut des initiatives de petits groupes de pays, il faut la pression des peuples sur ces instances. Et à l'échelle d'un pays, on peut parfaitement se déconnecter des marchés financiers. Prenons l'exemple européen ou de la France. 43% des actions sont détenues par des fonds de pension américains. Je résume, c'est un peu plus compliqué que ça aussi, mais l'essentiel quand même, c'est ça. Avons-nous besoin de ces fonds de pension américains dans le capital des entreprises cotées? Non. C'est nuisible. Ces nouveaux actionnaires ne sont pas là pour développer les entreprises. Absolument pas. Ces nouveaux actionnaires sont là pour extorquer du revenu qui va servir à financer les retraites des salariés américains. Ils n'ont pas besoin de nous. Donc, ça, ce sont des choses qu'il faut régler. Il faut les faire partir, c'est-à-dire organiser la fuite des capitaux. Sachant qu'un pays comme la France est le deuxième pays au monde pour l'épargne. C'est-à-dire que nous avons, nous, un taux d'épargne qui nous permet amplement de répondre à nos besoins d'investissement. Donc voilà quelque chose de très positif. Se déconnecter des marchés financiers, c'est faire en sorte que le financement de l'économie ne dépende pas du bon vouloir des investisseurs institutionnels, mais que l'on revienne, sous des formes nouvelles, au financement de l'économie par le crédit bancaire. C'est le rôle des banques d'accorder des prêts pour le développement de l'économie et non pas des marchés financiers dont le seul mobile est la rentabilité à très court terme avec des opérations spéculatives qui se multiplient. Tout cela est parfaitement possible et on peut, dans un pays, remettre en cause cette domination, cette dictature de la finance. S'il n'y a plus ou s'il y a beaucoup moins de fonds de pension présents dans les entreprises françaises, nous n'avons rien à redouter. Sur le plan monétaire, les opérations spéculatives, et ça c'est une des vertus de l'euro finalement, qui a d'autres inconvénients, mais il y a au moins cette vertu, c'est qu'un certain nombre d'opérations spéculatives sont désormais beaucoup plus difficiles vis-à-vis de l'euro. Nous pouvons aussi, il y a des instruments de contrôle d'échange, d'immobilisation des capitaux que certains pays d'ailleurs pratiquent, sachant qu'un État sera toujours plus fort que n'importe quelle entreprise multinationale et que n'importe quelle institution financière. Nous avons d'excellents douaniers, d'excellents gendarmes, d'excellents fiscalistes qui peuvent parfaitement empêcher les menaces et le chantage qui est organisé par ces acteurs économiques. Donc l'essentiel, c'est de se déconnecter de ces marchés financiers. Je prends pour terminer un exemple évident, le livret A de la Caisse d'épargne, plus de 100 milliards d'euros, qui ne circulent pas sur les marchés financiers. Et ça fonctionne très bien. Donc on n'a pas besoin, les marchés financiers sont nuisibles. Il faut donc les affaiblir, il faut ralentir, rapetisser le rôle du marché boursier, du marché action et le rôle des marchés financiers. Et un pays peut y contribuer, il ne faut pas se laisser impressionner par les menaces des uns et des autres. Quant à l'organisation sociale, chaque pays peut parfaitement choisir son système de retraite, son système d'assurance maladie, son système d'assurance chômage, sans être obligé de faire du dumping à l'envers, c'est-à-dire de se caler sur les politiques néolibérales qui, elles, veulent détruire et ont commencé déjà à le faire dans un certain nombre de domaines de la politique sociale.
Oui, mais là, on pourrait vous dire que si de telles choses se passaient en France, et en particulier si la France continue d'avoir toute cette organisation justement sociale, les retraites, la sécurité sociale, etc., etc., on n'est absolument pas compétitif et donc on va couler.
Oui, ça c'est ce qu'on entend depuis plus de 20 ans, et c'est vrai que ça a pu convaincre un certain nombre de gens, mais il suffit de constater la réalité pour s'apercevoir que c'est parfaitement faux, puis c'est ce qui est fait depuis 20 ans. Hein, on a affaibli les retraites, on a remis en cause les services publics, etc. Et nous sommes toujours avec un taux de chômage énorme. Donc le problème n'est pas là. Le problème est de faire en sorte que les marchés financiers ne puissent pas changer les choix faits par les citoyens. Quand les citoyens votent pour une certaine conception de la société, on ne peut pas admettre que derrière passent des institutions financières qui remettent en cause le choix qui a été fait par les citoyens.
Non, mais je m'interrogeais justement depuis tout à l'heure, vous parliez de pression des peuples, là, vous parliez de choix des citoyens. Quelles sont les conditions justement pour que le peuple bouge? Je ne sais pas, c'est peut-être dit de façon maladroite.
Moi, je pense qu'il y a certainement une première chose, c'est d'abord d'être persuadé que l'on peut changer les choses. Enfin, et même avant cela, d'ailleurs, la première chose, c'est de comprendre pourquoi les choses sont ainsi. C'est la condition pour maîtriser la situation et pour trouver des issues. Et c'est d'ailleurs ce à quoi s'attache Attac, qui est de contribuer à expliquer pourquoi il y a du chômage, pourquoi il y a les marchés financiers. Dès lors que les citoyens comprennent que tout ceci résulte de choix, et que ça ne relève pas de la nature, de la magie ou de je ne sais quoi, les conditions sont créées pour libérer les esprits à des alternatives et de croire, de penser, de se mettre en posture, en situation, pour imaginer des alternatives. Mais ce qui domine quand même, c'est un certain fatalisme, c'est-à-dire on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est ce genre d'idées reçues qu'il faut combattre.
Peut-être penser l'impensable, comme le dirait Serge Halimi, penser l'impensable, penser la possibilité d'une souveraineté sociale, d'une souveraineté alimentaire, de la remise en place de barrières douanières, enfin, de tarifications douanières contraignantes.
Oui, mais sauf que ça n'est pas impensable. C'est des choses qui ont déjà existé, qui fonctionnaient très bien. Ce sont des outils très efficaces, mais qui ont évidemment un inconvénient, c'est qu'ils empêchent, qu'ils limitent la liberté des plus puissants. Et c'est bien là le problème. Les puissants ne se laissent pas faire et ils trouvent évidemment des accents de sincérité pour expliquer aux humbles que ça n'est pas possible.
Bien, merci Jacques Nikonoff d'avoir participé à cette 100e émission de Des Sous et des Hommes. Peut-être que le moins que je puisse faire est de rappeler le site d'Attac, qui est www.attacavec2t.org. Autrement, vous pouvez toujours retrouver toutes nos émissions en écoute et en transcription la plupart du temps sur www.dessousetdeshommes.org avec un tiret entre chaque mot. Dans la suite des émissions, un petit peu délicat à dire ces derniers temps, mais je ne désespère pas de faire quelque chose de grand, de fort avec les anciens résistants, ceux qui avaient participé à l'élaboration du programme national de la résistance, qui sauront peut-être aussi nous remettre les choses dans une perspective historique pour nous. Voilà, à très bientôt.